Chapitre 82. Le ciel s'est assombri en peu de temps, et les averses se sont abattues sur Paris en cette matinée grisâtre. Quand ils atteignent l'extrémité nord de la rue du Temple, c'est le square du même nom qui se dévoile progressivement à la vue de Charles et Vincent. Les deux hommes ralentissent le pas pour évaluer les abords des lieux. Afin de préparer cette visite essentielle, chacun a étudié de son côté durant une bonne partie de la nuit. À eux deux, ils espèrent comprendre. Autour de la vaste esplanade centrale, des immeubles cossus achèvent de se construire dans les derniers emplacements disponibles. Le marché du carreau du temple attire fripiers et tailleurs. Les commerces se multiplient. Le promoteur Charlot a réussi à rendre le quartier attractif et s'est même offert au passage une rue portant son nom. Addison relève son col. Goguenard, il lorgne le chapeau melon de Vincent, dont les bords font gouttière. Un petit filet d'eau s'en échappe au ras de son visage. Malgré le sérieux des circonstances, Charles ne peut s'empêcher de taquiner son compagnon. Comprenez-vous enfin l'utilité d'un couvre-chef ? Vincent esquisse un mince sourire et secoue la tête comme un chien qui s'ébroue, projetant de l'eau sur son complice. Il ne lâche cependant pas des yeux le square du temple, qui s'étend devant lui. Certains arbres sont déjà de taille respectable. Les allées sont désertes, personne ne se promène sous la pluie, aucun enfant ne joue près de la pièce d'eau et de sa cascade ornementale. Aucun vendeur de journaux à l'horizon. Seuls les ouvriers et livreurs n'ont pas le choix et poursuivent leur activité en dépit du temps. Sur la chaussée, contournant l'îlot de verdure, les chevaux tirant leurs attelages dégoulinent et font triste mine. Au-delà, la nouvelle mairie se dresse, imposant son statut officiel. Achevée voilà à peine 20 ans, la construction de style néo-renaissance, flanquée de deux ailes, abrite les services administrant le 3e arrondissement. Arrivez-vous à repérer les traces du passé dans ce décor ? Demande Charles à Vincent. Je pense oui. Votre archiviste est un homme admirable et d'une grande efficacité. Il m'a bien renseigné. Beaucoup de nos compagnons sont remarquables. J'ai d'ailleurs cru noter que vous vous êtes bien entendu avec l'avocate du diable. Vincent ne relève pas, préférant se concentrer sur son sujet. Il a fraîchement étudié l'histoire du territoire sur plan et en découvre la réalité. Autant pour se remémorer les choses que pour informer son compagnon, il entreprend de lui expliquer. Tout le périmètre fut autrefois la propriété des Templiers. Au XIIIe siècle, à l'époque où Paris était loin de s'étendre jusqu'ici, ils s'étaient implantés sur des marais qu'ils ont drainés et asséchés avant d'y établir ce qui allait devenir l'un des plus florissants domaines qui soit. Dès 1210, l'endroit, vaste comme le tiers de la capitale d'alors, comprenait des fermes, des potagers, mais aussi de nombreuses dépendances protégées par une enceinte. Sur l'emplacement de ce square se dressait la maison du maître et, au bout, exactement là où l'hôtel de ville se tient aujourd'hui, s'élevait la tour du temple. Addison tourne la tête vers l'endroit que lui désigne Vincent. Celui-ci poursuit. Haute d'une 50aine de mètres, fortifiée, flanquée de tourelles à meurtrières sur ses 4 angles, cette forteresse était le symbole de la puissance des Templiers. On la voyait de loin, et le roi lui-même l'apercevait de ses fenêtres depuis l'île de la Cité. L'ordre était tout puissant et leur immense propriété constituait une ville dans la ville. Lorsque, au petit matin du 13 octobre 1307, Philippe IV, le Bel, déclencha l'arrestation préméditée des Templiers partout en France pour les faire condamner sous d'obscurs prétextes, leurs nombreux biens furent confisqués au profit de la couronne. Ils auraient pu se retrancher derrière leurs fortifications. Mais ils se rendirent sans résistance, confiants dans la justice du roi. Les fouilles qui furent immédiatement conduites dans leur domaine, et particulièrement dans cette tour, ne donnèrent rien, et la légende du trésor qui y aurait été enfoui commença à se répandre. Addison déambule aux côtés de Cavell, en considérant le sol qui a vu s'écrire une autre histoire, et que les gens foulent aujourd'hui sans s'en émouvoir, ni même s'en douter. Quelques siècles plus tard, poursuit Vincent, croisades et templiers n'étaient plus qu'un souvenir, et leur tour finit par devenir un bâtiment comme un autre, alors que Paris s'étendait. Un temps laissé à l'abandon, puis réaffectée à d'autres usages, elle devint entre autres un grenier, un magasin sécurisé, puis un casernement. À la Révolution, la tour devint la prison du roi Louis XVI et de sa suite, jusqu'à ce qu'il soit conduit à l'échafaud. C'est de cela que parle Robert Houdin dans ses notes. C'est plutôt un rebondissement intervenu bien plus tard, très près de nous, qui a excité sa curiosité. Au début de notre siècle, en 1808 exactement, Napoléon Bonaparte ordonna que ce qui restait de l'enclos du temple et de ses constructions soit rasé. La version officielle est qu'il craignait que l'endroit devienne un lieu de pèlerinage royaliste en souvenir du calvaire que le souverain y avait enduré. Mais l'historien n'a rien découvert dans les archives de la préfecture qui témoigne d'un tel phénomène. C'est le théologien qui a sans doute mis en lumière les véritables raisons de cette mesure. Si l'empereur semble avoir pris cette décision par crainte d'un sursaut royaliste, il en a été convaincu par un dénommé Ernest Blanchard qui avait, à l'évidence, d'autres ambitions. Cet homme était à la tête d'une entreprise de matériaux spécialisés dans la récupération et la revente de vieilles pierres. C'est lui qui obtint le marché de démolition des derniers bâtiments du temple, dont la fameuse tour fortifiée. Une banale histoire de profit, si les événements n'avaient pas pris ensuite une tournure étrange. Alors qu'il fallut à l'entrepreneur moins de 3 mois pour démonter 6 constructions massives du côté de Montparnasse, il mit plus de 2 ans à raser cette seule tour. De façon surprenante, il ne l'a pas morcelée du haut vers le bas, il l'a d'abord vidée de l'intérieur. Comme s'il y menait des fouilles ? Exactement. Peut-être espérait-il mettre la main sur ce qui avait échappé à Philippe le Bel. C'est ce que votre ami Robert Houdin soupçonnait, d'autant que la presse de l'époque évoque également la présence dans les parages de sociétés secrètes qui pratiquaient des messes noires et des cérémonies occultes. Rien sur une sépulture ? Si, un témoignage. Des années plus tard, en 1867, à l'occasion de l'inauguration de la mairie que nous voyons aujourd'hui, un des invités déclara à un journaliste, sans doute pour briller, que son père, qui avait travaillé comme jeune ouvrier sur la démolition, y avait découvert une tombe. « Celle que nous cherchons ?» Cavell opine et précise. Elle n'avait été ni détruite, ni déplacée, et elle se trouvait toujours dans les sous-sols du nouveau bâtiment. La presse se fit l'écho de ses propos, et 2 jours plus tard, on le retrouva mort chez lui, d'une cause inexpliquée, alors qu'il était en pleine santé. C'est alors que Robert Houdin s'intéressa à l'affaire et remonta le fil. Addison fouille du regard l'hôtel de ville de ce quartier rénové. La tombe serait donc encore là, intacte, quelque part dans les sous-sols de la nouvelle construction. Que diriez-vous d'aller y faire un tour ?